au réseau Cogeco.
Vous écoutez Auto 360.
Auto 360.
Avec Daniel Boudreau.
Auto 360. Voici la chronique luxe, prestige et histoire avec Philippe Lagu.
Oui, nous voilà de retour et je vous donne, juste avant de parler avec Philippe, les numéros, les façons de nous rejoindre. Pour Montréal, 514-790-9850, Québec, 418-670-9330, ou ailleurs, 1-866-790-9850, ou encore, auto360 à cogecomedia.com. Alors Philippe, tu nous parles de la BMW i8 telle que promis.
Oui, et je vous invite tout d'abord à aller sur mon site si vous voulez voir les photos de la i8, donc www.philippelagu.com, Philippe Lagu en un mot. Et sans plus tarder, Daniel, hein, c'est une voiture que tu connais toi aussi, tu l'as essayée. Et
j'ai
là,
adoré.
On peut vraiment dire qu'il y a des privilèges à exercer le métier de chroniqueur automobile, mais c'est important de savoir les apprécier aussi. Hein?
Absolument.
Ouais. Et puis moi, en ce qui me concerne, en tout cas, je suis loin d'être blasé, je peux te dire ça, parce qu'il m'arrive encore de vivre de grandes émotions. Puis ça a été le cas à plusieurs reprises cette année. Mais ma plus belle expérience, là, ça s'est passé il y a 2 semaines dans une BMW. Puis pas une version M, hein, parce que nous, les maniaques d'auto qui aimons les BMW, on a tous un faible pour les versions M, mais c'est une i qui m'a fait triper, plus précisément l'i8, qui est une sportive assez flamboyante, qui a déjà été présentée, qui a d'abord été présentée sous la forme d'un prototype là, au Salon de Francfort en 2009 et qui est commercialisée depuis 2013. Et l'i8 fait partie, avec l'i3, de la nouvelle gamme de véhicules hybrides et électriques de BMW, à laquelle devrait s'ajouter la berline i5 l'année prochaine. Là, je ne me suis pas trompé.
Non, c'est bien la i5.
Mais écoute, avant de m'installer dans l'auto, premièrement, il a fallu que je ramasse ma mâchoire parce qu'elle était tombée par terre.
Bon,
moi, je trouvais déjà cette auto-là magnifique, tout comme toi d'ailleurs.
Oui.
Je l'avais déjà vu dans des salons de l'auto, mais tu sais, le salon de l'auto, c'est un environnement qui met les voitures en valeur. Mais là, je suis allé chercher dans un concessionnaire une journée d'automne grise, frette, venteuse, et je l'ai trouvée tout aussi belle. Puis je suis pas le seul, hein, si j'en juge par les réactions que j'ai pu observer pendant ma semaine d'essai. Je sais pas comment ça s'est passé pour toi, là, mais c'est un objet roulant qui cause des torticolis. Là.
Incroyable. Les gens sur l'autoroute prennent des photos.
Oui, c'est fou.
Les pouces en l'air,
ouais.
Ça arrête pas.
Ouais, ça vraiment, là, c'est pour attirer le regard, là, c'est dur à battre. Là. Par contre, moi, quand je me suis installé à l'intérieur, j'ai un petit peu déchanté. Hein. Les portes en élytre, les portes là, qui ouvrent...
En
aile d'oiseau. Là, ça fait de l'effet, c'est sûr. Puis les sièges sont invitants, tu sais, ceinture de sécurité bleue, les coutures bleues, tout le kit, là, c'est très, très, très spectaculaire. Mais pour s'installer à bord, ça demande quelques contorsions. Hein? Pour entrer, c'est pas pire. Tu sais, on développe rapidement une technique qui est assez simple. C'est juste, ça consiste à se laisser glisser, tout simplement. Mais pour en sortir, ça se complique un petit peu. Là. Si vous êtes un gymnaste ou un athlète, ça va. Mais sinon, il faut vraiment être souple.
T'as pas ces qualités-là, Philippe.
Mais regarde bien. Le problème, d'abord, on va l'identifier. Le problème, c'est que le seuil du bas de l'ouverture de la porte est trop élevé.
Oui, il est large.
Oui, puis vous pouvez clairement le voir là, si vous regardez les photos sur mon site. On est assis plus bas que le seuil de la porte. Alors, il faut donc l'enjamber pour s'extraire de la voiture. Puis ça, ben, c'est pas simple pour un quinquagénaire moyen comme moi, moyennement en forme, format moyen. Et le problème, c'est que je représente la clientèle cible. Hein? Cette voiture-là coûte plus de 150 000 $, faut le préciser. Or, elle ne s'adresse pas aux jeunes. À moins qu'elle ait ciblé les gymnastes, là, mais ça restait encore plus le bassin d'acheteurs. Je sais pas, toi, ça s'est passé comment? Bon, c'est vrai que tu étais un grand mince, là, mais quand même.
Ben, mon premier réflexe a été justement parce que je suis allé voir. Mais de quelle façon, comment est-ce qu'elle est construite, cette voiture-là? Parce qu'aussi, embarquer, ça va relativement bien. Débarquer, c'est vraiment un problème. Puis
oui.
Même si tu es en forme, puis même si tu as des qualités d'athlète, ça demeure un problème.
Ben, mais, à la fin de la semaine, c'est pas pire. Tu développes ta routine.
Oui,
là, mais
au début, tu te dis, voyons, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et la raison pour laquelle le seuil est aussi large que ça, et c'est justement la façon dont ils s'y sont pris pour construire la carrosserie, parce qu'on voulait vraiment la faire de façon extrêmement rigide. Et on a utilisé de la fibre de carbone, du plastique, on a utilisé toutes sortes de matériaux.
L'aluminium.
Pour arriver à une qualité de rigidité comme ils voulaient, parce que c'est une des voitures les plus sécuritaires qu'il n'y a pas, hein, faut le dire.
Mm-hmm. Ouais,
alors, ils ont dû faire ça de cette façon-là. Donc, on a pratiquement deux tunnels de F1, un pour le conducteur puis un pour le passager.
Bon, enfin, ceci dit, une fois qu'on a réussi à s'installer, il y a un autre irritant aussi, le rangement. Ou plutôt l'absence de rangement, parce que ça se résume au coffre à gants, puis un petit coffre dans la console. Puis là, ben à l'arrière, le moteur est placé en position centrale arrière. Ça laisse un tout petit compartiment à bagages. Alors, heureusement, là, il y a les places arrière qui peuvent compenser, mais encore là, il faut être deux, évidemment. De toute façon, vous ne pouvez pas asseoir d'adulte à l'arrière. Ça, l'espace est trop restreint. Alors, pour toutes ces raisons, moi, la première impression que j'ai eue quand j'ai embarqué dans l'I8, j'avais l'impression d'être vraiment dans un prototype, un concept car, comme on dit à Paris. Là. Quand vous examinez des prototypes dans des salons de l'auto, vous voyez qu'ils ne sont pas prêts à aller en production. Hein. C'est souvent des exercices.
C'est souvent pour nous faire rêver.
C'est
nous
ça, des exercices de style. Puis le côté pratique n'est pas la priorité, même que des fois, il est complètement évacué. Puis c'est exactement l'impression que j'ai eue quand je me suis installé à bord de l'I8. Bon, ceci étant dit, après le pot, on va y aller avec les fleurs parce que l'intérieur n'a pas juste des défauts non plus. Hein. Premièrement, moi, j'ai adoré la présentation intérieure avec la couleur bleue qui revient partout, dans les portes, les ceintures de sécurité, au centre des sièges, les coutures, au tableau de bord aussi, tout l'éclairage. Le soir, là, on a vraiment l'impression d'être dans une des voitures de Blade Runner, là. la décoration, c'est pas moderne, c'est futuriste. Là,
oui,
l'effet est vraiment spectaculaire. Tu remarqueras d'ailleurs hein, que c'est un mot qui revient souvent quand on parle de l'I8. Hein? Spectaculaire. Là.
Absolument.
J'ai trouvé, je sais pas ce qu'il y en est pour toi, moi j'ai trouvé les sièges tout simplement parfaits et la position de conduite impeccable.
Yes.
Étais-tu bien, toi? Oui.
Ah oui, très confortable.
Tu confirmes?
Ah oui, confortable. On a parlé d'entrée et de sortir, mais une fois installé à bord...
Une fois dedans, oui, c'est ça.
C'est encore une fois spectaculaire, t'es confortable, puis là, tu veux plus sortir.
Effectivement. Ah oui, oui. Ben, tu veux plus sortir pour deux raisons. Tu veux pas te retaper l'exercice non plus, mais bon, ça, c'est un autre... Mais c'est vrai qu'on est bien dans cette voiture-là. Ah oui, vraiment, là, j'ai adoré.
Les sièges sont bien dessinés, c'est parfait.
Oui, oui, oui. Puis, je veux aussi saluer l'amélioration du système iDrive, qui m'a semblé beaucoup plus convivial qu'avant. C'est peut-être parce qu'on en a fait des plus compliqués depuis, là, mais non, mais sérieusement, là, on l'apprivoise rapidement, puis je préfère, moi, de loin, l'utilisation d'une molette là, à un écran tactile, parce que moi, un écran tactile, là, ça me revient pas, je trouve ça distrayant, je trouve ça dangereux. Je sais pas si t'es friand de ça, là, mais moi, je trouvais qu'avec la molette, là, ça allait très, très bien.
Oui.
Hein? Impeccable.
Belle amélioration.
Et pour le reste, ben, y a rien à redire. Hein. Si vous êtes familier avec l'habitacle d'une BMW, vous ne serez pas dépaysé non plus parce que les cadrans, les contrôles sont identiques aux autres modèles de la gamme, le levier de transmission également. Puis je termine avec la qualité d'assemblage qui est conforme à celle d'une voiture de plus de 150 000 $.
Absolument.
Mais bon, on est chez BMW, alors la qualité d'assemblage, on sait que d'habitude aussi, c'est assez impeccable.
Juste un petit point sur les cadrans. Moi, oui. J'ai adoré le fait que qui change de couleur selon le mode de conduite.
Ouais.
C'est pratiquement un environnement différent si tu prends le mode sport, le mode éco ou bon, le mode normal. Tu as les cadrans qui changent un peu.
Comme dans la Lexus.
Rouge, bleu, et c'est vraiment... Ouais,
comme dans la Lexus LC. Hein?
Et voilà.
Autant l'hybride que la régulière. Là.
Ça, j'ai vraiment aimé ça.
Bon, on va regarder la mécanique rapidement. Le moteur, on l'a dit, est placé en position centrale arrière. C'est le 3-cylindres turbo de 1,5 litres de la Mini Cooper, mais qui génère 228 chevaux dans l'I8. Et il est jumelé à un moteur électrique à l'avant qui ajoute, lui, l'équivalent de 129 chevaux supplémentaires. Alors, total, 357 chevaux. BMW qui a promis une augmentation de la puissance pour cette année, pour 2018, en fait, qui dépasserait 400 chevaux. Mais bon, toi et moi, on a conduit la version 2017.
Et c'est bien suffisant.
Oui, oui, je trouve, moi aussi.
400 chevaux, oui, c'est le fun de dire qu'il y a 400 chevaux. Oui, la voiture est suffisamment solide et rigide pour recevoir 400 chevaux, je ne suis pas inquiet. Mais acheter une 357 chevaux, là, si vous voulez sauver et économiser, vous allez être très satisfait.
Oh, absolument. Mm. Puis, à la base, il faut dire que l'I8, c'est une propulsion avec son moteur et ses roues motrices à l'arrière, mais elle devient une traction si on roule seulement avec le moteur électrique qui, lui, est placé à l'avant et transmet sa puissance aux roues avant. D'ailleurs, l'autonomie en mode 100% électrique, ça, c'est assez restreint, hein, faut le dire. Là, c'est seulement 20. Ils nous disent 25 km. J'ai pas été capable de dépasser 20, là. Mais une fois que cette batterie est vide, on peut la recharger assez rapidement, par exemple, en roulant. Puis quand on roule en mode sport, hein, la batterie se recharge assez rapidement.
C'est même étonnant de la façon qu'ils ont réussi à recharger cette batterie-là.
Oui, tout à fait. Ouais. Puis sinon, ben, quand vous roulez en mode hybride, c'est-à-dire la plupart du temps, ben, vous avez de la traction aux quatre roues. Hein. C'est quand même assez intéressant. C'est pas une voiture qu'on est obligé de serrer l'hiver. Hein. Pendant ma semaine d'essai, j'ai obtenu une consommation moyenne de 7 litres aux 100 km. Et ça a fait beaucoup de bien à mon portefeuille. Parce que conduire des voitures de prestige, c'est bien le fun. Mais ça coûte cher de gaz.
Et voilà.
Pas toujours, mais souvent.
Ouais.
Et bien, t'en as parlé, Daniel, hein? Le nerf de la guerre pour une voiture sport, c'est le poids. Et le poids, c'est souvent le handicap des voitures hybrides, mais pas la i8, parce que BMW a vraiment réussi un tour de force avec l'utilisation de l'aluminium, de la fibre de carbone. Puis ces matériaux-là ont aussi l'avantage d'être ultra rigides, ce qui fait qu'on a l'impression de conduire une voiture qui est construite toute d'un bloc. Comme c'est souvent le cas avec les Allemandes d'ailleurs, mais beaucoup plus légère. Et ça, c'est une qualité de plus en plus rare chez les Allemandes. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi.
Très d'accord.
Et la direction, ben, je l'ai trouvée tout simplement parfaite. Hein? Faut pas se casser la tête pour trouver des synonymes. Parfait, ça le dit, c'est parfait. Et en matière de précision, écoute, on est au même niveau que Porsche ou Ferrari, là. C'est vraiment du gros, gros calibre là, pour ce qui est de la direction. Bien sûr qu'il y a beaucoup de couples également. On le disait, c'est pas si puissant que ça dans l'univers des sportives 357 chevaux. Mais l'auto est légère. Alors ça, déjà, ça fait une grosse différence. Et en plus, la direction est tellement bonne que, écoute, c'est agréable à manier. C'est précis, tu places ça là, où tu veux, là, comme tu veux, à l'équerre. Là. C'est
incisif.
Ouais, tiens, t'as exactement le bon mot. Puis si on y va avec des arguments un peu plus rationnels, c'est parce que c'est très confortable. Je sais pas comment t'as trouvé ça, toi.
Absolument. C'est une voiture que tu peux utiliser à tous les jours.
Au quotidien.
Sans aucun problème.
Très confortable, silencieuse.
Si on réussit à trouver la bonne façon d'entrer et d'y sortir.
Oui, c'est ça.
Mais pour le reste, elle est silencieuse.
Ben, c'est une bonne raison pour retourner au gym, hein, quand même. Là.
Ben, moi, ou ça... on dit on va aller faire une couple de tours de voiture puis ça va nous faire notre
non, gym. Mais moi, si j'avais une auto comme ça, ça me motiverait à être en forme. Hein?
Absolument.
Absolument, absolument. Les seuls bémols, c'est les pneus à faible friction. Et le freinage régénératif, alors ça, c'est deux aspects qui pénalisent un petit peu la conduite sportive. Mais là, Anto puis moi, là, ça fait vraiment une différence si on est un pilote de haut niveau et si on va sur un circuit. Puis c'est pas non plus la vocation de l'I8, hein, qu'on peut plutôt décrire comme une GT hybride, donc une voiture grand tourisme hybride rechargeable.
Mais avec un style spectaculaire, comme on retrouve pas dans les GT.
Non, pas beaucoup, rarement en tout cas à ce point-là. Là. Et tout ça pour dire que mon premier contact avec la i8, au début, ça m'a un petit peu refroidi hein, quand ça a été le temps de s'installer à bord. Mais vraiment, là, après ça, il y a eu un revirement de situation. Le plaisir croît avec l'usage et la séparation a été franchement douloureuse quand j'ai dû la rapporter chez le concessionnaire. Si je pouvais me payer une folie là, dans les six chiffres... Honnêtement, l'I8 ferait partie de ma liste parce qu'elle a tout ce que j'aime. Moi, tu le sais, Daniel, en plus, tu commences à me connaître un petit peu. Là. Les GT, j'aime vraiment ça. C'est mon genre de voiture. Et l'I8 a tout ce que j'aime d'une GT. Le style, la grâce, la rapidité, le confort. Puis en plus, si vous avez la fibre du collectionneur, l'I8, c'est un bon placement. Là, hein? À cause de sa rareté, il s'en vend très peu, puis les délais d'attente sont longs. Et de sa valeur historique, parce qu'il s'agit de la première sportive hybride commercialisée par BMW, ce qui l'assure, juste ça l'assure de passer à la postérité.
C'est de la haute technologie, il faut le mentionner.
Et cette comment?
Cette voiture-là, c'est que de la technologie de tout partout. Design, l'aérodynamisme, on n'en a pas parlé vraiment.
Pas beaucoup,
mais
quand passé,
tu la regardes vraiment, tu vois l'air passer à travers sa carrosserie et tout est fonctionnel sur cette voiture-là. Alors vraiment, là, c'est un coup de circuit de la part de BMW, tu as bien raison.
J'en conclus que tu as aimé ça autant que moi.
Oui, autant. Ah, autant et sinon plus, parce que moi, j'ai regardé un petit peu au niveau des frais. J'ai hâte de voir. Je vais attendre que ça diminue, là, mais cette voiture-là va tout simplement prendre la valeur au fil du temps.
C'est juste ça qui nous manque, Daniel. 169 000 $ le modèle, l'exemplaire qu'on a conduit.
Bon, ben viens-t'en, on va aller rencontrer le boss lundi matin.
Ouais, parfait, je vois toi.
Merci beaucoup, Philippe.
Ben, ça a été un plaisir.
Alors, encore à venir à Auto 360, on va parler avec Maxime Dubois un petit peu plus tard du CA et aussi avec Opération Nez Rouge au retour de la pause. Restez là.
Au réseau Cogeco, Auto 360.
Avec Daniel Boudreau.
L'automobile sous toutes ses soudures, ses coutures, c'est en tout cas.
Auto 360.
Oui, nous sommes de retour. Nez Rouge et CA s'en viennent dans quelques instants. Mais avant, on a Luc en ligne. Bonjour, Luc.
Oui, salut, ça va bien?
Oui, super.
Excellent. Bon, moi, j'ai une question que je me pose depuis un certain moment, puis j'aimerais ça vous la poser, voir si vous n'avez pas une réponse pour moi. On m'a toujours dit que, je ne sais pas si c'est vrai, après 20 ans, une voiture, elle devient automatiquement une voiture de collection. D'un, est-ce que c'est vrai?
C'est non. 25 ans, si je me trompe pas.
C'est 25 ans, et attention, elle devient un classique. C'est pas nécessairement une voiture de collection. Faut faire une différence. C'est-à-dire qu'au niveau de la loi, il y a des règles qui changent, ce que vous pouvez faire avec, comment vous pouvez la faire rouler sur les routes et tout, mais ça veut pas dire que vous avez une voiture de collection, là. Ça se peut que personne en veuille, ça dépend du modèle.
Ouais, exact. OK. Mais la raison pourquoi je vous demande ça, c'est en fait parce que bon, moi, j'aime beaucoup les voitures sport. Et puis, tu sais, des fois, je vois des Toyota Supra 94 super clean, super belle, qui vendent ça 20, 25, 30 000 $. Moi, j'ai une Eclipse GST 98 qui est en parfait état. Puis là, elle a 98, donc l'année prochaine, elle va avoir 20 ans. Donc là, je me demandais, est-ce que ça devient une voiture de collection automatiquement, ou c'est pour ça que je me demandais...
Donc, malheureusement, quand je vous dis, la notion de voiture de collection, c'est ça dépend du marché, en fait. Faites le tour des différents sites qui existent là-dessus. Il y a un site en anglais que j'aime beaucoup qui s'appelle Bring a Trailer, sur lequel je passe vraiment beaucoup trop de temps, où il y a beaucoup de voitures à vendre de cette nature-là. Et vous allez voir, en fait, les prix. Et c'est là que vous allez pouvoir comparer le prix de votre Eclipse avec les voitures de collection que l'on retrouve actuellement sur le marché.
OK. Bon, parfait. Je vais aller faire un tour sur ce site alors.
Merci beaucoup, Luc.
Merci
Martin
beaucoup.
Est en ligne. Bonjour, Martin.
Oui, bonjour. Là, vous m'avez mêlé avec votre BMW M5. Là. Je suis comme un petit peu mêlé. J'ai la G80. J'ai essayé. Ça fait longtemps, ça fait un an que je rêve à ça. Là. Je ne sais pas, G80, G90. Regarde, j'ai un petit peu de budget. Là. C'est pas trop, mais la BMW, je trouve, c'est pour moi... là. C'est personnel. Je trouve ça commun un peu, une BMW. Tout le monde a ça. Là.
OK.
La Genesis, là, elle a du mordant, mais c'est moi, je suis un pépère, là. Je sais pas. J'essaye de comprendre.
Vous savez que Genesis n'ont pas de modèle qui se compare à M5. Là. C'est plutôt la série 5 avec les G80. Et la G80 Sport, je vais vous dire que moi, je l'ai adoré, cette voiture.
Ben, à moins que le gars s'est trompé, parce qu'il m'a dit, regarde, c'est la M5, là. La G80, il m'a dit que c'était la M5, là, à moins que... Moi, je connaisse pas ça, le vendeur, là.
Non, on n'est pas du tout au même chapitre au niveau de la puissance, là. Vous avez quasiment 200 chevaux de différence entre les deux, là.
Non, c'est ça. Mais je suis mieux avec la 90.
Ben, d'abord, ça, la 90 dans Genesis, vous êtes dans une grosse berline de luxe, de grand luxe. Si vous voulez aller chercher le côté sport un peu, la Genesis G80S va être une voiture exceptionnelle. Elle fait tout de bien, cette voiture. Les accélérations, conduite
laquelle,
de tous les jours, elle est douce. La G80S.
OK.
Donc ça, c'est peut-être la voiture à considérer. Si vous voulez avoir la méga grosse berline qui se compare... Ça se compare pas, là, mais pour faire un parallèle, c'est peut-être plus une série 7 ou une classe S chez Mercedes. Fait que
non,
vous voyez la différence.
J'en veux pas de Mercedes. Je l'ai essayé, puis j'en veux pas. Mais c'est vraiment, c'est celle-là. J'ai passé 2 semaines à magasiner, puis j'ai mis ça, là. C'est vraiment ça que je voulais, mais il n'y en avait pas en stock. Tout ce que j'avais, c'était la 80 qu'il y avait.
Ouais, mais bon, là, il va avoir la
cette voiture-là, va vous donner des...
C'est ça. Il va avoir bientôt la G70 aussi qui arrive, là, qui, elle, est un peu plus petite, un peu plus dynamique. On parle, bon, la plus grosse version, c'est 365 chevaux. Ça pourrait aussi être une option intéressante si vous voulez pas faire le compromis de la grosse berline de luxe. Là.
Merci beaucoup, Martin. Éric est en ligne. Bonjour, Éric.
Salut, les gars. Ça va bien?
Yes.
Oui. J'ai une petite question, dans le fond. Moi, j'attends un troisième bébé. Puis je cherche un VUS si possible qui peut contenir 3 sièges d'enfants. j'ai aucune idée, à part, mettons, une bonne vieille caravane, là. Puis un VUS qui est environ d'un budget de 30 000 $
Écoutez, c'est pas un vrai VUS, mais moi, j'ai une proposition à vous faire qui n'est pas la plus tripante au monde, mais c'est la Toyota Venza. C'est un véhicule auquel on pense jamais. Et moi, j'ai un ami qui a trois enfants, qui a trois sièges de bébé installés sur la deuxième banquette, et les trois rentrent un aux côtés de l'autre, ce qui fait que ça ne compromet pas non plus son espace de chargement. Évidemment, elle est disponible avec le rouage intégral, elle est disponible avec un moteur V6. C'est pas la voiture la plus amusante à conduire, si je demeure poli. C'est plus une grosse Camry d'ancienne génération. Haute sur pattes.
C'est en fin de vie. C'est en fin de vie un peu. C'est pas.
C'est en fin de vie, mais ça fait le travail tout à fait. Et c'est beaucoup plus agréable à conduire qu'une caravane, à moins que vous alliez dans les nouvelles mini-fourgonnettes. Mais là, on parle de pas mal de gros budgets, là.
Ouais, là, 30 000 $ on n'est plus là, là. Éric, d'abord, félicitations. Hein, troisième bébé, c'est superbe. Ça, on peut vous le dire d'entrée de jeu. Il y a quelques véhicules qui ont de l'espace dans les sports utilitaires. Est-ce que vous avez besoin d'une traction intégrale?
Idéalement, oui.
Idéalement, oui. Le Rogue peut vous donner quand même un petit peu d'espace sur les troisièmes rangées. C'est dans les véhicules de sports utilitaires qui vous en donnent le plus, mais vous allez devoir rester dans une catégorie de sports utilitaires intermédiaires. Donc, dans les intermédiaires, le Rogue est pas mal celui qui va vous en donner le plus parce qu'au niveau de l'intérieur, va se ressembler beaucoup au Venza,
oui.
Mais va la être différence... beaucoup plus moderne dans son rendu, par exemple. Parce qu'à 30 000 $ traction intégrale, avoir de l'espace, c'est un peu serré. Évidemment, il faut ajouter du bagage. Trois enfants, là, je le sais, ça prend du bagage.
Ouais. Mais c'est ça le problème avec le Rogue, c'est qu'on va perdre l'espace de chargement parce qu'il faut mettre le troisième siège sur la dernière, au fond complètement. Alors qu'avec le Venza, les trois rentrent de largeur. Là. Je l'ai testé. J'ai pas trois enfants, mais je l'ai testé.
Mon conseil premier avec votre budget, c'est le véhicule qui va vous rendre le plus grand service, ça demeure une caravane. C'est pas sexy, c'est plate, c'est dull, c'est une mini fourgonnette, mais c'est pratique. Et vous n'aurez pas à compacter le bagage. Parce que là, vous allez devoir vous acheter un compacteur à un moment donné pour compacter le bagage, pour tout rentrer ça, lorsque vous allez partir pour pas un long voyage, là, pour un très court voyage. Alors, considérez vraiment l'achat de la mini-fourgonnette ou sacrifiez un an ou deux. Allez-vous-en vers un pilote, vers un Highlander. Ça serait aussi une très bonne idée. Essayez peut-être la Outlander. La Outlander est moins large un peu. Je pense que c'est encore là un 7 passagers, mais sacrifier puis allez-vous-en peut-être vers un Highlander serait une solution.
Il y a quelqu'un qui m'a conseillé un Mazda CX-7 ou CX-9, je crois. Ça se peut-tu?
Oui, mais là, vous tombez dans d'autres
CX-9,
budgets.
CX-9, ça ne donne rien parce que vous allez aller CX-9. Vous ne pourrez pas. Ça va être d'occasion. Puis c'est de l'ancienne génération.
OK. Ça répond à ma question.
Parfait. Merci d'avoir appelé. Ben, on fait une pause, puis on vous revient rester.
Au réseau Cogeco.
Auto 360.
Auto 360, avec Daniel Boudreau.
Avec Daniel Boudreau.
Auto 360, l'invité de la semaine.
Nous voilà de retour à Auto 360. On rejoint immédiatement Mme Véronique Lalandre, qui est conseillère communication et marketing pour Opération Nez Rouge. Bonjour Véronique.
Bonjour Daniel, ça va bien?
Bien oui, évidemment, ces temps-ci de l'année, période de conscientisation concernant la conduite et les facultés affaiblies, il y a plusieurs campagnes, mais celle qui ressort depuis plusieurs années, c'est Opération Nez Rouge. Dans un premier temps, Véronique, explique-nous un peu qu'est-ce qu'Opération Nez Rouge?
Oui, bien écoute, Daniel, comme tu le disais, on sent déjà la fébrilité dans l'air là, par rapport à l'approche de la campagne qui commence dès vendredi soir prochain, je le mentionne. Opération Nez Rouge, c'est quelque chose qui existe au Québec depuis 34 ans maintenant. C'est une organisation qui a été fondée pour offrir un service de raccompagnement qui se veut gratuit aux automobilistes pendant le temps des fêtes. Donc, c'est vraiment un service qui est offert aux gens qui ne sont pas aptes à prendre le volant, que ce soit parce qu'ils reviennent d'un party de bureau, parce qu'ils se sentent fatigués. Peu importe la raison, c'est un service qui leur est offert gratuitement s'ils veulent rentrer chez eux en toute sécurité après une soirée.
Et évidemment, le succès d'Opération Nez Rouge passe par les bénévoles. Et vous avez constamment besoin de bénévoles.
Oui, tout à fait. On est vraiment en période de recrutement. En fait, on va l'être pendant tout le mois de décembre aussi. Là, c'est pas une fois que la campagne est commencée, on abandonne le recrutement. Donc, on cherche des gens jusqu'au 31 décembre. Et puis, comme vous l'avez dit, les bénévoles, c'est vraiment la clé du succès de l'opération Nez Rouge depuis les tout débuts. C'est des gens qui s'impliquent, qui permettent de rendre nos routes plus sécuritaires. Et puis, c'est vraiment une expérience, je pense, qui est tripante aussi, autant en centrale que sur la route pour les gens qui décident de s'impliquer. Donc, voilà, on les remercie bien gros chaque année.
Bon, les bénévoles, on peut faire quoi, là? Parce que il n'y a pas seulement, si je suis seul un soir, puis j'ai rien à faire, puis je dis, bon, je vais me rendre utile, je vais aller à l'opération Nez Rouge, je peux aussi le faire comme je peux organiser un groupe au bureau.
Oui, exactement. Il y a plusieurs options qui s'offrent. Celle des groupes formés de collègues de travail, c'est une option qui devient de plus en plus populaire. Mmh. Donc, si jamais les gens sont intéressés à ramasser quelques-uns de leurs collègues pour faire une soirée de raccompagnement avec eux, c'est tout à fait possible. Par contre, il y a beaucoup de gens, justement, qui cherchent une activité à faire ou qui se présentent à la centrale tout seuls. Et puis, on leur trouve quelque chose à faire sans problème, que ce soit sur la route. On peut former une équipe de raccompagnement avec d'autres personnes qui se présentent seules ou des personnes qui viennent en duo. Mais il y a aussi plusieurs postes à combler à la centrale même. Je pense aux postes à l'accueil, à la téléphonie, aux gens qui forment les équipes, qui les préparent pour aller sur la route. Donc, il y a vraiment plusieurs options pour s'impliquer. Puis, je pense que c'est une des belles opportunités qu'on offre quand on s'implique à Nez Rouge, justement.
Vous avez aussi développé une application pour utiliser Opération Nez Rouge et c'est de plus en plus populaire, cette application.
Oui, l'année passée, on a vraiment eu une utilisation record. C'est une application mobile qui s'appelle Nez Rouge, qui est diffusée par Desjardins. Et puis, ce qui est plaisant avec ça, c'est que ça nous permet d'avoir le numéro de la centrale qui est la plus près d'où on se trouve. Ça nous donne une idée aussi du temps d'attente avant d'avoir un raccompagnement. Ça nous permet de planifier une alarme. Si jamais on veut se faire appeler un peu plus tard, il faut contacter la centrale pour avoir un raccompagnement. Donc, c'est vraiment quelque chose de super pratique. Et puis, depuis l'an dernier aussi, on permet aux gens de prendre en photo leur formulaire d'inscription bénévole et ils peuvent nous le faire parvenir directement grâce à l'application mobile Nez Rouge. Donc, ça simplifie la vie des gens qui veulent s'impliquer et puis on pense que c'est bien apprécié, là.
Alors, tu nous as dit que ça commençait ce vendredi prochain. Jusqu'à quelle date?
C'est jusqu'au 31 décembre inclusivement. C'est certain que les dates d'opération varient d'une région à l'autre au Québec. Par contre, le service est vraiment offert. Là, ça se termine le 31 décembre avec le nouvel an qui arrive.
À chaque année, vous avez une campagne de promotion d'Opération Nez Rouge. Vous avez fait affaire avec plusieurs humoristes. L'an passé, c'était un peu plus les utilisateurs. Vers quelle direction vous vous dirigez cette année?
Bien, cette année, on a encore décidé de mettre en vedette nos bénévoles parce que, comme on le dit, c'est vraiment sur eux que s'appuie l'opération Nez Rouge et son succès. Donc, encore cette année, dans la publicité à la télé, vous pouvez voir des bénévoles qui se joignent à une soirée du temps des fêtes. Notre thématique de cette année, justement, c'est un classique du temps des fêtes dans la mesure où on pense que l'opération Nez Rouge, ça s'est vraiment taillé une place de choix dans les traditions de Noël, dans les traditions du mois de décembre en général. Donc, c'est là-dessus qu'on se base pour inciter les gens à participer, qu'ils l'aient déjà fait par le passé ou qu'il ne l'ait jamais tenté. C'est vers cette avenue-là qu'on s'est tourné cette année.
Opération Nez Rouge, tu l'as mentionné tout à l'heure, c'est gratuit, mais les gens qui laissent un petit peu de sous en passant pour le service, bien, cet argent-là est bien utilisé.
Oui, tout à fait. En fait, tous les dons qui sont amassés à la fin des raccompagnements sont remis à des œuvres, en fait, à des organisations locales qui œuvrent soit pour la jeunesse ou pour le sport amateur. Donc, dans la mesure où, mettons, l'opération Nez Rouge de Sherbrooke recueille, disons, 3 000 $, ben, l'argent est remis dans la région à des organisations qui œuvrent pour les deux causes que j'ai mentionnées plus tôt. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est entièrement réinvesti localement.
Alors, voilà, c'était Véronique Lalande, qui est conseillère communication et marketing pour Opération Nez Rouge.
Ben merci beaucoup, Daniel.
Et voilà, nous sommes de retour. Merci beaucoup à Véronique. Et j'ai à m'accompagner maintenant Maxime Dubois du CA, qui est agent d'information au service conseil automatisé ou automatique.
Automobile?
C'est plutôt automobile. Au service automobile de CA Québec. Salut!
Bonjour, Daniel.
Bienvenue à Auto 360. Merci. Alors, on va parler d'un phénomène que, justement, ça frustre beaucoup les gens. Lorsqu'on veut changer de véhicule, on a notre véhicule, on va le porter chez le concessionnaire pour le faire évaluer. Et là, on a un prix de notre véhicule d'occasion, 3 000, 3 500. On s'en va ailleurs, on a 5 000. On s'en va ailleurs, on a 2 500. Mais là, on dit, qu'est-ce qu'on fait? On va appeler Service conseil CA Québec, et là, on a un autre prix. Ça devient frustrant, c'est un peu difficile de s'y retrouver, Maxime.
C'est dur de s'y retrouver, puis on se met dans la peau, dans les bottes des consommateurs. Puis oui, ça peut être fâchant, on veut en avoir le plus possible pour notre argent. Quand on achète un véhicule, on veut l'avoir pour longtemps. Quand c'est le temps de le changer, bon, on va avoir la valeur maximum. Oui. On va chez le concessionnaire, comme tu dis, on a un prix X, mais il faut se mettre dans la tête que le concessionnaire, lui, achète et il faut qu'il revende le véhicule. Souvent, bon, il y a une certaine mise au point à faire sur le véhicule, il faut qu'il vende avec une garantie. Alors, c'est pour ça que c'est évidemment pas la même valeur qu'au détail. Quand les gens nous téléphonent, quand les membres nous téléphonent, on est capable de donner un prix au détail. Ce qu'un concessionnaire pourrait vendre avec un véhicule en parfait ordre, ou presque, là, on va dire, là, avec une garantie aussi. Et là, c'est ça. Ça, c'est un deuxième prix. Le troisième prix, c'est quand le consommateur veut vendre le véhicule par lui-même en plaçant une annonce sur les réseaux sociaux, dans les annonces classées. Mmh. C'est toujours un peu plus bas, par contre, parce qu'évidemment, le particulier ne peut pas vendre avec une certaine garantie. Bon, le véhicule est peut-être en bonne condition, mais peut-être pas aussi autant que le concessionnaire pouvait le revendre. Alors, c'est ça qui est différent un peu.
C'est un peu spécial à part des gens, mais comment est-ce qu'on fait pour réussir à s'y retrouver là-dedans?
Ben, les consommateurs, justement, qui nous téléphonent, les membres, on est capable de regarder. On donne un exemple d'un camion. Exemple, un F-150. Ça se revend très bien dans le marché de l'occasion, mais ça se revend moins bien sur l'île de Montréal. Il y a moins de grande demande. Tandis que si on regarde dans la Beauce, si on regarde, je ne sais pas, au Saguenay, là, il y a une demande encore plus grande pour ces véhicules-là. Alors, ça varie aussi d'une région à l'autre. Alors, ce que les gens peuvent faire quand ils nous téléphonent, on est capable de regarder avec, oui, le Black Book que monsieur et madame tout le monde est capable d'avoir, accès sur Internet, sauf qu'ils donnent des fois un kilométrage en référence. C'est rare qu'on arrive target pile dessus. Ouais. Alors, on est capable de regarder ça. Nous, on regarde aussi avec Hebdo Book, le Weekly Edition, l'édition commerciale. On est capable de regarder aussi qu'est-ce que le concessionnaire serait capable de donner aussi en échange. Puis, on regarde aussi avec le facteur région. Alors, avec tout ça, on est capable de regarder pas mal qu'est-ce que le véhicule pour tel client serait capable d'avoir chez le concessionnaire, vendre par lui-même ou aussi magasiner un véhicule comme ça.
Vous êtes aussi capable de repérer les ratoureux parce que les concessionnaires qui offrent un prix déshonorable qui est vraiment là très élevé. Eux autres là vont prendre le prix du véhicule neuf, vont transférer dans le prix d'occasion parce qu'on veut toujours avoir le plus pour notre véhicule d'occasion. Alors faut être capable de démasquer ces gens-là.
Absolument. Ben oui, ça c'est toujours le calcul, hein, c'est de regarder toujours qu'est-ce que ça nous coûte au retour. Ça c'est une des choses à vérifier absolument. Il faut toujours regarder des fois les gens de téléphone. Bon, je sais pas moi un Corolla 2014, je dis n'importe quoi, un LE que 60 000 km. Bon, je dis un chiffre au hasard, mettons que ça vaut 14 000. Puis quelqu'un qui demande 16 500, ben là, qu'est-ce qui se passe? Il donne-tu un voyage dans le sud avec? Qu'est-ce qui se passe? On se demande souvent. Là. C'est important vraiment de vérifier, de les magasiner. Les gens là, qui veulent s'assurer peuvent nous téléphoner, justement, les membres. On est capable vraiment de regarder, de le personnaliser selon la région. Puis d'un autre côté, si les gens veulent décider de vendre par eux-mêmes leur véhicule, ils décident que non, ça leur dérange pas de sauver le crédit de taxe lors d'un échange chez le concessionnaire. Ils veulent vendre par eux-mêmes. On est capable vraiment de bien les encadrer, bien les diriger là-dessus. C'est le même principe que vendre une maison. Hein. Faites le ménage dans votre véhicule. Enlevez le plus d'éléments personnels dans votre véhicule. Rendez-le propre. Mettez-le le beau.
C'est important de mentionner que vous donnez un prix de référence aussi au Québec. Parce qu'il y en a beaucoup qui partent avec votre prix, vont magasiner, puis là, ils chialent. Les concessionnaires chialent après vous autres. Parce que l'écart est trop grand.
Ben oui, puis ça, on l'entend souvent. Parce que on dit ça, les gens nous retéléphonent après. Ah, le CA m'a dit tel prix. Puis là, évidemment, le commerçant, lui, dit ouais, mais le CA, te fais-tu un chèque? Mais non, justement, c'est sûr. Nous, on n'achète pas le véhicule, mais il faut vraiment mettre la notion. Le commerce vendrait tant, le commerce achète à tant et le particulier peut vendre à tant. Ça, c'est ça qui est bien important de vérifier.
Donc, on prend ses précautions, puis on peut aussi préparer son véhicule. Il y a une façon d'avoir le plus cher possible pour son véhicule d'occasion. Là, on peut se préparer d'avance.
Ben oui, puis il y a un contrat aussi qui est en vente, qui n'est pas en vente, mais un contrat de vente qui est disponible gratuitement pour les membres du CA, qui justement nous donne vraiment l'heure juste et qui nous permet de ne pas avoir de zone grise. Il y a tellement de problèmes. On est inondé d'appels. On a quoi, 120 000 appels par année à peu près, juste pour le service conseil auto. On parle pas du dépannage, là. Alors, et dans ceux-là, il y a beaucoup de gens qui se font prendre, se font rouler, font pas inspecter le véhicule avant. C'est des choses qui sont absolument essentielles. Des souliers à 50 piastres, Daniel, on les essaye avant de les acheter.
Ouais.
Une voiture à 12, 13, 14, 15 000 piastres. Faut c'est quoi de faire inspecter? C'est la moindre des choses.
La moindre des choses. Merci beaucoup.
Fait plaisir.
Maxime Dubois, agent d'information, service conseil automobile du CA Québec. On fait une pause et au retour, on vous parle. Restez là.
Au réseau Cogeco, Auto 360,
avec Daniel Boudreau.
L'automobile sous toutes ses soutures, ses coutures, c'est en tout cas.
Auto 360.
Nous sommes de retour pour les gens de Montréal, 514-790-9850, 418-670-9330 pour les gens de Québec. Ailleurs, 1-866-790-9850. Juste avant d'aller à la ligne, Marc, une nouvelle?
Ouais, petite nouvelle rapide. Hyundai qui s'en vient avec 8 nouveaux utilitaires sport et on pensait qu'ils se tourneraient davantage du côté de l'électrique et des différents modèles. Or, au cours des derniers jours, on a repéré un Hyundai à hydrogène. Et ce véhicule-là est, semble-t-il, conçu pour venir en Amérique du Nord spécifiquement. Donc, ceux qui pensaient que l'hydrogène était en train de mourir, il semble que du côté des Coréens, on pousse plutôt de ce côté-là, histoire, semble-t-il, de développer le réseau partout en Amérique.
Mais huit.
Huit
nouveaux.
Ouais, mais attention là.
Le Santa Fe, la refonte du Santa Fe est calculée là-dedans?
Probablement. T'as le Kona qui arrive au cours des prochaines semaines et il y aura par la suite, au cours des prochains mois, un Kona électrique. Donc, on est déjà rendu à 3. On nous promet un VUS 8 passagers. Donc, ça pourrait peut-être répondre aux questions de notre monsieur tantôt, là. Ouais. Donc, on nous promet quelque chose de 8 passagers. Donc, un gros VUS. Il y a toutes sortes de déclinaisons. On parle même d'un moteur diesel qui s'en viendrait aussi en Amérique. Mais pour le moment, comme je te dis, celui qu'on a vu et il y a des photos espions un peu partout sur le web, c'est la version à hydrogène, mon cher.
Donc, 8 sports utilitaires, mais il faut dire qu'il y a de la déclinaison là-dedans. Stéphane est en ligne. Bonjour, Stéphane.
Oui, bonjour, M. Boudreau.
Bonjour.
Bonjour. Je cherche à m'acheter une maîtrise cargo. Et puis, je voulais savoir ce que vous en pensez de la maîtrise.
Superbe. J'ai fait un petit peu de route avec ce véhicule et les capacités m'ont vraiment surpris. Sa capacité de charge, d'ailleurs, à l'intérieur, je ne sais pas si c'est votre besoin au niveau de charger, mais on peut entrer des charges quand même assez importantes à l'intérieur du véhicule. Son aménagement, moi, je suis ravi pour tous les commerçants qui ont besoin de petits véhicules. Avant, c'était des gros Econoline ou des Savannah.
Oui, maintenant, vous commence les deux, là.
Là, vous êtes gâté, puis en plus, l'économie de carburant avec ce véhicule, vraiment, oui, et maniable aussi en ville. Alors ça, c'est vraiment un superbe de véhicule, mais je suis obligé de vous dire aussi qu'on doit aller voir un ProMaster City, puis on doit aller voir aussi.
OK.
Oui.
Et puis le moteur 2 litres, 4 cylindres turbo, vous en pensez quoi?
Ben, c'est un moteur qui est connu chez Mercedes, hein, Marc? Je pense pas qu'il y ait
C'est un moteur qui a aucun problème. Historiquement, c'est un moteur qu'on a vu dans d'autres modèles. Il y a aucune difficulté. C'est un moteur qui est aussi très économique malgré la puissance qu'il donne. Et vous parlez du maîtrise. Le maîtrise, Daniel en a glissé un mot. C'est probablement le plus maniable de tous les véhicules de cette catégorie-là. C'est celui qui, en ville, va se faufiler n'importe où. Honnêtement, moi, j'ai essayé toute la gamme là, dans cette gamme-là. Et pour les entrepreneurs, c'est parfait. Beaucoup, beaucoup d'espace. Facile à aménager à l'intérieur si vous avez des besoins spécifiques. Honnêtement, peu de défauts. Et on le dit, extrêmement fiable. Le moteur de 2 litres est historiquement un des moteurs les plus fiables sur le marché.
Donc, on ne se trompe pas.
Pas du tout.
Ben, vous ne vous trompez pas. Et en plus, vous vous améliorez sûrement comparativement à il y a quelques années où on devait acheter des gros véhicules qu'on n'avait pas vraiment besoin et qui consommaient énormément. Alors, voilà. Et les coûts, les services. Vous avez vu l'entretien de ce véhicule-là. C'est des entretiens qui sont très espacés pour justement permettre d'être sur la route et non d'être chez le concessionnaire. Merci d'avoir appelé. Louis-Charles est là. Bonjour, Louis-Charles.
Salut les gars, ça va bien?
Bonjour, superbe.
Oui. Oui, écoutez, moi et ma blonde, on a tous les deux des petits véhicules deux portes. Ma blonde, elle a un Sion FRS 2016. Moi, j'ai un Mazda B2300 2007. Éventuellement, la famille pense probablement s'agrandir. Fait qu'on check pour un véhicule quatre portes. On checkait plus pour du multi-segment, par exemple. Le véhicule qui est tombé dans l'œil de ma copine, c'est le Toyota CHR. Elle trouve que c'est côté grosseur, côté look, c'est pas super. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est quand même avoir un véhicule qui est quand même spacieux, mais sans non plus tomber dans le 40-50 000. J'avais vu aussi le Tucson, j'avais vu dans cette gamme de véhicules-là. Je veux savoir qu'est-ce que c'est, mettons, pour une petite famille, côté multisegment VUS, ce serait quoi le mieux, puis aussi côté économie d'essence?
Écoutez, le CHR, ben, Daniel, vas-y. Tu l'as essayé, tu l'as aimé.
Ben, le CHR, c'est parce que... Est-ce que vous avez besoin de la traction intégrale?
Ben, ça serait super pratique parce que souvent, on va aller descendre voir de la famille en Gaspésie. On est en région de Longueuil. Aussi, moi, je suis souvent sur la route. Je travaille sur la route. Donc, j'ai besoin d'avoir un véhicule qui est quand même fiable à la ligne.
C'est pas le CHR. Moi, je vous suggère davantage d'aller vers le HRV chez Honda.
Oui. Mais en fait, ça dépend ce que vous voulez. Là, on parle de véhicules qui sont beaucoup plus petits. Le HRV est super spacieux, mais c'est un petit véhicule qui est assemblé sur la base de la FIT. Autrement, vous allez dans le Tucson qui est plus gros et qui va vous offrir plus d'options aussi, dont la traction intégrale, mais évidemment avec le budget qui va avec.
Le Tucson, c'est mon choix également. Merci d'avoir été là. Je me repose la voix, promis. Et on se reparle la semaine prochaine pour un autre Auto 360.
Soyez là samedi prochain pour une autre édition d'Auto 360 avec Daniel Boudreau.